Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jacques et soyez les bienvenus dans le Mac du Tarn de CFM Radio. C'était Song for Winners de Nick Waterhouse dans le mag de CFM Radio et maintenant je vous propose de partir en balade sonore au musée de l'abbaye de Gaillac entre mosaïques gallo-romaines, traditions populaires, culture de la vigne, histoire du palais abbatial. C'est Nina Maligné qui nous amène à la découverte de ce musée qui raconte l'âme du gaillacois.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
À
À Gaillac, dans le Tarn, au cœur du palais abbatial, le musée de l'abbaye présente une collection très éclectique qui donne à voir la richesse de l'histoire de Gaillac. On est avec Morgane Laurent, qui est chargée des publics et de la médiation, pour une petite balade dans le musée.
Au musée de l'abbaye, on a une collection d'archéologie, mais aussi du compagnonnage et du travail de la vigne. Et également, à la fin du musée, une pièce qui est consacrée à l'art sacré.
Okay. Donc là, on est dans la première salle qui est consacrée à l'archéologie.
Alors ici, on se trouve autour d'une très belle mosaïque qui est datée de la fin de l'Antiquité, puisqu'elle est datée du 4e et 5e siècle après Jésus-Christ. Elle a été découverte en 1995, quand il y a eu des fouilles au niveau de la cour du palais abbatial. Et cette mosaïque, elle a un décor très intéressant, géométrique, très complexe. Et sa particularité, c'est qu'elle n'est pas entière. Mais malgré tout, les archéologues, on le voit au sol, il y a des, si tu vois dans le plâtre, il y a des petites marques. Les archéologues ont quand même pu reconstituer le motif entier de la mosaïque. Donc on imagine comme ça une grande mosaïque dans la cour du palais. Et les archéologues pensent qu'à l'époque, il y avait une villa gallo-romaine.
À la place du musée.
À la place du palais abbatial, effectivement. Donc une villa, faut imaginer, c'est pas comme une villa comme on l'entend aujourd'hui. À l'époque, une villa, c'est vraiment un domaine foncier avec des terres agricoles, la demeure principale, mais aussi des bâtiments agricoles. Et ça montre la richesse de la ville de Gaillac dès l'Antiquité. Et ça a permis de redécouvrir l'histoire de Gaillac, parce que pendant longtemps, on pensait qu'on était sur une ville millénaire qui avait vu le jour au Xe siècle à peu près avec l'installation des moines ici à l'abbaye. Et en fait, pas du tout. En 1995, il y a eu un bond qui a été fait. On est passé d'une ville millénaire à une ville bimillénaire avec presque 2000 ans d'histoire grâce à ces découvertes archéologiques. Okay. Et on a la chance de les abriter dans le musée aujourd'hui.
Et t'as déjà vécu, toi, ce truc de fouiller et de tomber sur quelque chose que personne n'a jamais vu de nos jours ?
Alors, j'ai eu de la chance, pendant mon parcours, de faire des fouilles archéologiques en Seine-et-Marne sur un château médiéval. C'est le côté magique de l'archéologie, c'est quand on découvre, effectivement, il faut imaginer que les hommes du passé ont laissé des choses en place il y a 2000 ans, il y a 500 ans. Et nous, avec nos petites ruelles, on les découvre intactes et c'est très émouvant. Alors, on ne trouve pas toujours des mosaïques, on trouve beaucoup de choses de la vie quotidienne, mais pouvoir découvrir le quotidien des hommes, des femmes du passé, c'est passionnant et je comprends que ce soit un rêve d'enfant pour beaucoup d'entre nous.
On va continuer sur le côté un peu vigne. Ce qui dit Gaillac, quoi, dit viticulture, dit voilà, beaucoup de choses autour de ça. Gaillac s'est développé notamment par le Tarn et par la navigation. Et on a sous les yeux une maquette.
Ici, on a une maquette qui mériterait d'être un peu mieux mise en valeur parce qu'on n'a pas beaucoup d'images des gabarres qui naviguaient sur le Tarn. Ça, c'est une gabarre typique du 19e siècle. Donc, il faut imaginer un grand bateau en bois à fond plat, parce que le Tarn était un fleuve relativement dangereux. Jules César, par exemple, quand dans la guerre des Gaules, il parle du Tarnis. C'est vraiment pour montrer le côté rapide, profond, un peu dangereux. Et donc, il a un fond plat, sur lequel, en fait, on va charger les marchandises directement sur le pont, parce que le Tarn, il n'était pas navigable partout. Donc, il fallait régulièrement décharger, prendre les voies terrestres, reprendre une gabarre, etc.
Ah oui, tout décharger sur la berge, recharger plus loin.
Exactement. Wow. Et la particularité des gabarres, c'est qu'en fait, si tu vois, il y a un mât qui est à l'avant du bateau. Et en fait, c'est un mât qui ne sert pas pour les voiles. En fait, il peut se baisser. Et quand on avait besoin d'utiliser les chemins de halage, soit à la force humaine, soit plus tard à la force des bœufs, des chevaux, la gabarre était remontée grâce au chemin de halage. Il faut imaginer qu'à l'époque, avant que le Tarn soit non praticable à la navigation, puis qu'il y ait le chemin de fer qui se développe, il pouvait y avoir des centaines de bateaux au port de Gaillac. Vraiment, Gaillac s'est vraiment développé grâce à sa position stratégique sur le Tarn. Parce qu'en fait, au-delà de Gaillac, tu ne peux pas naviguer, tu ne peux pas remonter après plus loin. Donc Gaillac va permettre, avec son port, d'exporter le vin, évidemment, mais aussi plus tard le charbon de Carmaux, il va y avoir les prunes, etc. Donc vraiment le port de Gaillac qui avait à cette époque-là, au 18e, 19e siècle, une grande effervescence. Mmh. On recense une centaine, voire parfois 200 navires qui étaient au niveau du quai Saint-Jean, qui le port a disparu aujourd'hui. Mais voilà, Gaillac s'est vraiment développé grâce à ça.
C'était une plateforme hyper importante pour le développement du Tarn, du coup, globalement, quoi.
Oui,
des villes autour.
Voilà, de manière générale. Et puis les autres villes, voilà, si elles avaient des marchandises à exporter, passaient par Gaillac. Donc effectivement, le Tarn, au niveau du Gaillacois, a rayonné grâce à son port. Et il y en a qui ont voulu un peu s'accaparer ce développement, on va dire, notamment avec le vin, on en a parlé, qui était largement transporté sur le Tarn. Au Moyen-Âge, le vin était acheminé jusqu'à Bordeaux. Et après, c'était le port de Bordeaux qui était chargé de l'exporter ailleurs. Et les Gaillacois se sont rendus compte que Bordeaux s'accaparait les barils de vin du Gaillacois. Et c'est pour ça qu'au XIVe siècle, on a eu des marques à feu. On en a une reproduction dans cette salle où, en fait, il y a l'emblème de Gaillac, la fleur de lys, le coq, l'année. Et il y avait cette marque à feu qui était déposée sur les barils, sur les tonneaux, pour vraiment la notion de traçabilité qui apparaît au Moyen-Âge. Et comme ça, les Gaillacois étaient sûrs que c'était leur vin jusqu'au bout qui était reconnu comme le vin de Gaillac. Et c'est pour ça que maintenant, on appelle le vin de Gaillac le vin du coq. Parce que du coup, sur les barils, il y avait le coq sur le baril. Donc partout dans le monde, on savait que c'était le vin d'ici.
Et une gabarre, du coup, tu disais qu'il y avait 200 bateaux amarrés. Ça a quelle taille, une gabarre ?
Alors, il y a plusieurs tailles. Les gabarres, à cette époque-là, ça variait entre 8 à 23 mètres à peu près de long, 4 mètres 30 de large. Donc, normalement, un navire, on le mesure en tonneaux. C'est la mesure du bateau, c'est sa capacité à être chargé. Il y a des navires qui peuvent aller jusqu'à 50 tonneaux. La moyenne d'une gabarre qui naviguait sur le Tarn, on était à peu près à 20-25 tonneaux. C'était vraiment une gabarre moyenne.
Okay. Et donc, qui dit développement de Gaillac dit vignoble, viticulture, vin. Donc là, on est dans le couloir de l'histoire de la gestion des vignes sur le Gaillacois.
Ouais, ici, on est dans une très belle galerie, dans une cave voûtée en briques. Ça met dans l'ambiance, l'éclairage est un peu tamisé, il y a des sons de vignerons qui travaillent. On a une grande collection de sécateurs, qui est vraiment l'outil principal du vigneron. Et la galerie, elle est divisée en trois parties. Il y a la première partie sur le traitement des vignes, avec des souffreuses manuelles ou qui étaient sur les animaux pour traiter contre le mildiou, par exemple. On a la deuxième partie qui est vraiment sur les vendanges et la dernière partie qui est sur la tonnellerie. Et dans la deuxième partie, justement, il y a un objet, moi, que j'aime beaucoup, qui montre, qui est vraiment le témoin de la vie quotidienne des vignerons, des vendangeurs de l'époque. C'est ce petit fichu qui a explosé. C'est ce qu'on appelle loup cabessal. En fait, les vignerons avaient ce fichu, c'était fait en toile de jute, avec un peu les matériaux qu'ils trouvaient. Ils le posaient sur la tête, donc tu as vraiment, tu vois, la forme ovale, on voit qu'il a déjà servi même, il a la forme du vendangeur, donc ils le portent sur la tête. Et dessus, c'était pour amortir l'oudesque, qui est cette grosse bassine-là métallique qui servait à recevoir les grappes de raisin. Et voilà ce petit objet qui est suspendu. Voilà, je l'aime beaucoup pour vraiment le témoin de la vie quotidienne et le confort quand même apporté dans cette dure labeur.
Transporter les vignes, enfin le raisin sur la tête.
C'est ça, avec cette petite bassine. Wow. Et puis après, c'était mis dans des contenants plus grands.
Pour avoir de
grands.
Bonnes cervicales, du coup.
Ben, c'est ça. Et du coup, c'est voilà, ce petit objet, on pourrait passer à côté. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire que voilà, c'est un travail difficile, effectivement, qui fait mal au corps. Mais il y a quand même ce petit soin qui est apporté pour le rendre un peu moins pénible. Et voilà, il est exposé dans cette deuxième galerie. Voilà, du coup, après avoir descendu quelques marches, on est dans une autre cave voûtée, en briques, pareil, avec toujours un bel éclairage pour mettre en valeur les collections. Et on arrive dans la salle du compagnonnage. Voilà, il y a une grande collection qui a été donnée à la ville. Et là, on voit vraiment le parcours du compagnon. Alors ici, c'est beaucoup le travail du fer, du bois. Voilà, le jeune apprenti qui part s'exercer plusieurs années chez différents compagnons. Il faut imaginer qu'il partait jeune à l'époque. Il s'installait vraiment chez le compagnon.
Il partait à quel âge, parfois ?
Alors là, je ne pourrais pas te le dire, mais il partait assez jeune. Ça existe toujours, d'ailleurs, le compagnonnage, hein, aujourd'hui. Après, ils partent un petit peu moins jeunes. Mais il y avait vraiment l'idée de déracinement à l'époque qui était très fort, si bien que la femme du compagnon, c'était la mère. Elle était appelée la mère de l'apprenti, parce qu'on les imagine jeunes. Et du coup, voilà, c'était vraiment le rôle que tenait l'épouse du compagnon de materner un petit peu ce jeune qui partait de chez lui et qui arrivait dans une nouvelle famille et qui devait apprendre toute une technique pendant plusieurs années. Donc on voit les différents outils et puis surtout...
Qui sont d'ailleurs très très bien mis en valeur.
Ouais, la lumière joue beaucoup ici dans cette salle, parce qu'on est vraiment dans un décor de briques, mais il y a beaucoup de métal qui est là dans la muséographie et l'éclairage joue bien le jeu. Et puis on a de très beaux chefs-d'œuvre, parce que forcément à l'issue de la formation qui prenait assez longtemps... le compagnon, enfin l'apprenti, devait présenter au jury un chef-d'œuvre donc de sa discipline, et c'est comme ça après qu'il avait le titre, voilà, qui devenait compagnon lui-même. Donc on a beaucoup d'escaliers, de maquettes de charpentes, de petits guéridons, de petites tables. Et puis il y a un métier en particulier, c'est le métier de maréchal ferrant, qui est exposé ici, parce que lui, en plus de faire son chef-d'œuvre, il devait fournir le bouquet de Saint-Éloi. Donc c'est ce que tu as ici, ce qu'on est en train de regarder toutes les deux. En fait, l'idée, c'était de faire un peu sa carte de visite, son showroom de ce qu'il était capable de faire, en fer orthopédique pour les ânes, les bœufs, les chevaux, etc. Donc il présentait ça en plus de son chef-d'œuvre, et ça lui servait d'enseigne. Après, quand il avait sa propre boutique, il la mettait comme enseigne. Et ouais, c'est vraiment la notion de carte de visite, un peu de showroom de ce qu'il était capable de réaliser. Ouais.
Pourquoi on appelle ça un bouquet de Saint-Éloi ?
Parce que Saint-Éloi, c'est le saint patron des artisans qui utilisent comme un des outils les petits marteaux comme les orfèvres, les maréchals ferrants, tous ces travaux-là. Voilà, c'est leur saint patron, donc c'est pour... et bouquet, parce que tu vois bien cette forme pyramidale un petit peu, mais vraiment où on voit bien chaque fer est bien mis en valeur, et ça prend beaucoup d'ampleur. Bah, je te propose de terminer la visite avec cette pièce remarquable du musée, qui est la Vierge à l'Enfant, qui était dans l'abbatiale, qui est une œuvre sculptée en bois polychrome qui date du XIIIe siècle. C'est un peu la Joconde aussi du musée, parce que comme je te disais tout à l'heure, elle a été volée. Elle était donc dans l'abbatiale, dans l'église de l'abbaye. Et en 1997, elle a été dérobée le plus simplement possible. On était un 10 septembre 1997. On retrouve un peu les archives de cet événement. Tout de suite, il y a des avis de recherche qui sont déposés, une plainte à la gendarmerie, ce qui permet de la retrouver très vite. Au final, le 14 novembre, elle est retrouvée chez un brocanteur italien.
Okay.
Elle est ramenée, ouais, elle est ramenée en France, elle est ramenée à Gaillac. Il y a même un procès qui s'est tenu en mars 1998. Et en avril 1998, il y a une grande cérémonie pour son retour à Gaillac, en grande pompe. Et pour éviter que ça se reproduise quand même, l'original, c'est celle qu'on voit. Donc elle est abritée dans le musée et il y a un moulage qui lui a été substitué dans l'abbatiale. Et donc on a de la chance de la voir dans le musée. Ça reste une pièce qui est en excellent état et qui montre bien vraiment comment on représentait les Vierges à l'Enfant au XIIIe siècle. C'est-à-dire que tu vois, on a la Vierge Marie qui est assise sur un trône et qui en fait est elle-même un trône pour son fils. On appelle ça le trône de la sagesse. Et il y a Jésus sur son genou gauche, qui est un adulte en miniature. À cette époque-là, les Vierges à l'enfant, Jésus est vraiment un adulte en plus petit. Et les siècles à venir, là, on va vraiment trouver un Jésus plus bébé. Et là, tu le vois, il est... Alors tiens, est-ce que tu as une idée de ce qu'il tient dans sa main ?
Alors là, tout de suite, je vois une boule. J'ai envie de dire un planisphère.
Mais tu as raison, en fait, c'est le globe terrestre qui est dans sa main. C'est vraiment la notion d'universalité de Jésus. Et de sa main droite, il bénit les fidèles. Et au-delà du message religieux, forcément, de cette sculpture, vraiment, la Vierge à l'enfant, elle incarne toute la maternité, alors divine, forcément, mais elle incarne vraiment la maternité, l'amour, la compassion, la bienveillance d'une mère envers son enfant. Le message qu'il y a derrière, forcément, il est religieux. C'est l'amour de Dieu envers les fidèles. Mais les Vierges à l'enfant, à chaque fois, la Vierge Marie, elle a un regard très doux.
Ouais,
tu le vois.
Et moins triste que ce qu'on peut voir peut-être plus tard.
Oui, exactement. Et là, on est vraiment l'expression de son visage. Il est hyper beau. Et vraiment, pour s'en rendre compte, faut venir la voir. Parce qu'on a de la chance d'accueillir, alors, on l'a dit, une mosaïque de l'Antiquité. Et puis, cette belle pièce du XIIIe siècle, qui est vraiment remarquable. Et elle vaut le coup de venir l'admirer en vrai.
Après une période de travaux, le musée de l'abbaye a rouvert ses portes. Toutes les informations pratiques sont sur le site de la ville de Gaillac, gaillac.fr.
C'était le Mag du Tarn de CFM Radio avec cette balade sonore au musée de l'abbaye de Gaillac, un lieu qui permet de mieux comprendre l'histoire et les richesses du territoire gaillacois entre patrimoine religieux, tradition populaire, archéologie et savoir-faire locaux. Merci à Nina pour ce reportage et merci à vous de l'avoir suivi sur CFM Radio, c'était Jacques.
Écoutez et réécoutez. CFM Corde. Sur cfmradio.fr.